France Inter. Les admirations littéraires de
François Sureau. Quand j'étais jeune, lorsqu'on voulait s'engager à la Légion étrangère, on arrivait après quelques péripéties à Aubagne. Là, deux officiers d'un bureau de sécurité faisaient raconter au candidat sa vie, sans rien omettre. On ne confie pas sans précaution les armes de la France à des étrangers ou à des Français qui parfois ont eu maille à partir avec la justice et auxquels on va offrir, sous une identité d'emprunt, une nouvelle vie. Les récits étaient tapés sur du papier pelure et rejoignaient les archives. Quand je servais au 1er régiment étranger, je descendais aux archives et je regardais les dossiers de Cole Porter, Hans Hartung, Marc Simenon, frère de Georges, et Nicolas de Staël. Pour Frédéric Sauzer, né le 1er septembre 1887 à La Chaux-de-Fonds en Suisse, il n'y avait que deux lignes et une note énigmatique du médecin militaire « Folie d'après l'affiche ». Il s'était engagé en août 1914 au bureau de recrutement des Invalides et en pleine mobilisation, il n'y avait guère de temps pour les confessions personnelles. Je vais donc me substituer avec toute la nostalgie de ma jeunesse à l'officier de recrutement pour vous raconter brièvement la vie et l'œuvre de Frédéric Sauzer, passé à la postérité sous le nom de Blaise Cendrars.
Quand on a bouffé son pognon ou gâché par un coup de cochon toute sa carrière, on prend ses godasses sur son dos et l'on file au fond d'un paquebot aux légionnaires.
Frédéric Sauzer est né dans une famille bourgeoise du canton de Berne, une famille que l'on dirait aujourd'hui dysfonctionnelle. Le père est sans cesse en voyage, la mère neurasthénique néglige ses enfants. Très tôt, Frédéric a voulu s'en aller, et si je puis dire, s'en aller de tout. Nous vous lirons tout à l'heure le célèbre poème « Quand tu aimes, il faut partir ». Envoyé en pension en Allemagne, il fugue. Puis il abandonne à Neuchâtel des études qui ne lui plaisent pas, et est envoyé en apprentissage à Moscou, puis à Saint-Pétersbourg, après la première révolution, celle de 1905. Il travaille chez un horloger et fréquente les bibliothèques, c'est une habitude qu'il ne perdra jamais. Comme Apollinaire, Cendrars sera un érudit, ce qu'il est amusant de noter pour deux poètes qui ont autant renouvelé les formes, sans égard, dirait-on, pour les enseignements du passé. Il écrit, semble-t-il, son premier livre, « La légende de Novgorod », tiré à 14 exemplaires. C'est un livre qui n'a jamais été retrouvé, mais que Cendrars a toujours fait figurer en tête de ses bibliographies. Il s'éprend d'Hélène Kleinmann, à laquelle il donne des cours de français. Elle mourra après le retour de Blaise Cendrars en Suisse et cette mort, par accident ou par suicide, ne cessera de le hanter. Étudiant en médecine à l'université de Berne, il y rencontre un schizophrène, enfermé à l'asile de la Waldau, qui servira de modèle au célèbre Moravagine, son double maléfique. Il retourne en Russie en 1911, puis s'embarque pour New York pour rejoindre Fela Poznanska, une étudiante juive russo-polonaise rencontrée à Berne. Il l'épousera ensuite et en aura trois enfants. C'est là qu'il écrit « Les Pâques à New York », texte fondateur de la poésie moderne, dont on retrouve des échos dans le « Zone d'Apollinaire » publié un peu plus tard. Il a choisi pour pseudonyme Blaise Cendrars, Blaise comme braise, Cendrars comme cendre, parce que pour lui, cette consomption est au cœur même de l'activité du poète. Revenu à Paris, il fonde L'Homme Nouveau, journal anarchisant, se lie avec Chagall ou avec Modigliani.
Modigliani, c'est un jeune Italien que j'ai rencontré en 1907, hôtel Duperron, rue Lauriston. Il arrivait de Livourne, de son pays. Il était riche. Il venait de toucher 260 à 280 000 lires. Il était beau, divinement beau. Il était gai, bien portant. Et ne pensait qu'à jouir et à découvrir Paris. Il séduisait toutes les femmes qu'il rencontrait. Nous avons bien ri ensemble. Et je l'ai perdu de vue quand son fric a été bouffé et qu'il est parti comme un pauvre vivre au bateau-lavoir à Montmartre.
Comme Apollinaire, Cendrars est doué pour l'amitié. L'un des plus beaux portraits qu'on ait de lui a été donné un peu plus tard par le grand écrivain américain Henry Miller et nous vous l'avons lu déjà dans une émission précédente.
Il est au-delà de ça. C'est une force vitale, une pulsion aveugle et impitoyable, plus proche de la nature que de l'homme. Il est à la fois tendre et impitoyable. Il est antinomique. Et toujours, uniquement lui-même. Toujours, uniquement, Blaise Cendrars.
Vient la Grande Guerre. Il lance un appel aux artistes étrangers vivant en France pour qu'ils s'engagent dans le camp du droit et de la liberté. Mais son engagement à lui correspond aussi à un appel plus personnel. Comme il l'écrit en allemand, le jour de son engagement, à l'un de ses correspondants suisses. C'est aussi une façon de s'en aller, à la rencontre de lui-même, violence comprise, et d'y acquérir une liberté nouvelle. Dieser Krieg ist eine schmerzliche Erlösung ins Freie, une délivrance pour accoucher de la liberté. Il est rapidement promu caporal pour son courage au feu, et en septembre 1915 est grièvement blessé en montant avec son régiment, le 2e étranger, à l'assaut de la ferme Navarin en Champagne. Amputé au-dessus du coude droit, il est cité à l'ordre de l'armée, décoré de la médaille militaire, réformé avec une croix de guerre à deux palmes. Il ne deviendra jamais ce qu'on appelle un ancien combattant ou un écrivain de guerre. Il restera à l'écart, fidèle pourtant au souvenir de ses camarades. Mon copain et moi, écrit-il dans Rhapsodie gitane, chacun dans son genre, portions la même flétrissure, l'estampille de la Légion, qui fait que l'on ne supporte pas plus la vie, lui par exemple la vie de tribu ou de famille, que l'art ou l'esthétique pour moi.
Il était 2h du matin, je suis entré au café du Dôme à Montparnasse, il régnait comme une démence. Alors il y a un type qui s'est approché de moi, il m'a dit « je veux te tatouer une femme dans le dos ». Oui monsieur, et je me suis couché sur le billard. Oui monsieur, et ça n'est que 20 ans plus tard que j'ai appris que c'était Modigliani et que j'étais devenu un chef-d'œuvre. Ceci dit, ça n'avait aucune importance, car j'étais resté à la Légion et je continuais à me battre sous l'emblème apatride de la grenade à cette flamme.
Oh là là.
Cendrars s'est voulu libre de tout, et même de la condition de l'artiste, du fétichisme de l'art. Dès son retour à Paris, il a résisté aux tentatives de rapprochement des surréalistes et s'en est allé voir ailleurs. On s'explique mieux qu'il n'ait jamais obtenu aucun prix, qu'il n'ait jamais été reçu dans aucun cénacle. Il est publié en Pléiade tout de même, mais il reste l'un des plus inconnus de nos grands écrivains, son œuvre disparaissant derrière les clichés de l'aventurier, du bourlingueur. Après l'amputation, la poésie fera place au roman. La main amie dont il parle désormais et qui remplace la main perdue, qui est elle la main moravagine, celle de l'absurdité et de la violence, c'est la main du romancier. Il publie en 1918 « J'ai tué », illustré par Fernand Léger, qui reste l'un des livres les plus forts écrits sur la guerre, puis il reprend son errance, l'Afrique, pour l'art de laquelle il se passionne, et en 1924 le Brésil, avant de publier ses premiers romans, « L'or »,« Moravagine », »,« Rome ». Il devient reporter, explore les bas-fonds de Paris, fait dans les soutes le premier voyage du paquebot Normandie, explore Hollywood. Il a essayé toutes les formes, poésie, prose, journalisme, comme on cherche une issue. Il ne faudrait jamais arriver, lit-on dans le lotissement du ciel. En 1937, c'est un homme malheureux, séparé de sa muse, Raymond Duchâteau, et qui vit à l'hôtel près du pont de l'Alma. Son ami, Pierre Pucheux, le ministre de l'Intérieur de Vichy, qui finira fusillé à Alger, lui présente une jeune femme extraordinaire. Elisabeth Prévost, aventurière et journaliste de haut vol, âgée de 27 ans, aux yeux couleur d'émeraude, et dont Kessel disait « elle a plus voyagé que moi ». Elle l'enlève littéralement. Il passera avec elle un an, seul, dans une petite maison de la forêt des Ardennes, reprenant goût à la vie et à l'écriture et commençant d'écrire ce chef-d'œuvre que sera l'homme foudroyé. Après la mort d'Elisabeth Prévost en 1996, on trouvera dans ses papiers des feuillets qui se terminaient par
« Blaise Cendrars est l'homme qui a le plus marqué mon cœur et mon esprit. »
La guerre les sépare. Refusé à la Légion, Cendrars se fait affecter comme correspondant de guerre à l'armée anglaise. Elisabeth Prévost reste dans les Ardennes et se verra décerner la croix de guerre pour son héroïsme au moment de la percée allemande. Sa maison fut brûlée. Et revenant, fouillée dans les décombres, elle put sauver un exemplaire de Forêt Vierge, avec sa dédicace à B&B, c'est comme ça qu'il l'appelait, qui m'a enlevé, avec ma main, mon cœur, mon amitié, Blaise, le copain de la dernière heure, 1938. Cendrars retrouva Raymond Duchâteau, sa fiancée d'autrefois, et convertie au catholicisme, l'épousa à l'église Saint-Dominique. sur le porche duquel le sculpteur a donné au saint le visage de Louis Jouvet, pour lequel Raymond avait joué, et pour la dernière fois en 1939, le rôle d'Eugénie dans L'Ondine de Giraudoux. Il ne voyagera plus, et s'il écrit « Emmène-moi au bout du monde », ce sera sans quitter la rue Jean Dolan. Il meurt le 21 janvier. Raymond ne trouve pas d'endroit où l'enterrer. C'est Elisabeth Prévost qui lui trouve une tombe, au cimetière des Batignolles, où il est conduit après une messe à Saint-François-Xavier. Au mur de cette église, on voit une fresque où le saint renonce sur un quai aux vanités du monde, un manteau, une épée, une viole de gambe, avant de s'embarquer pour l'Asie. Quand tu aimes, il faut partir.
Y a-t-il pour vous plus de plaisir à plaire ou à convaincre ou à provoquer ?
Plutôt provoquer.
Aimez-vous la vie dangereuse ?
Oui.
Sans doute.
La poésie s'en est allée, je la soupçonne d'être passée par chez toi. De s'être allongée dans ton lit et d'avoir écouté la pluie sur le toit. Elle avait si peu à confier, pas du genre à trop s'épancher quelques mots. Qu'elle a laissé sur ton bureau quelques ratures au stylo, puis elle s'en est allée, puis elle s'en est allée. Il nous a fallu quelques jours pour être moins aveugle et sourd et trouver que l'air était un peu plus lourd, nos épaules un peu plus rentrées et pensées. Qu'après avoir tant annoncé un départ mille fois reporté, elle avait ôté le manteau du crochet où depuis des siècles il pendait, puis s'en était. Puis s'en était allé. Sommes-nous des enfants perdus, la forêt à perte de vue pour le soir. Refuse de nous abandonner, de laisser à l'obscurité tout. Sur notre histoire mal engagée, la pleine lune est convoquée pour déjouer les pièges d'une nuit trop noire, aux abords d'un abattoir, sans un poème pour nous sauver, sans un poème pour nous sauver. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé qu'elle n'avait pas pu s'en aller sans passer par chez toi et sur ton bureau. J'ai vu les ratures au stylo, quelques mots qui se sont glissés sous ma peau, sur ton visage et sur tes mains. Ils ont pris le rythme d'un cœur en sursis, et leur pouls était faible aussi, mais il faudrait s'y raccrocher, mais il faudrait s'y raccrocher.
Les admirations littéraires de François Sureau.
1000 millions d'individus m'ont consacré toute leur activité d'un jour. Leur force, leur talent, leur science, leur intelligence, leurs habitudes, leurs sentiments, leur cœur. Et voilà qu'aujourd'hui, j'ai le couteau à la main, l'Eustache de Bono. Vive l'humanité! Je palpe une froide vérité sommée d'une lame tranchante. J'ai raison, mon jeune passé sportif saura suffire. Me voici les nerfs tendus, les muscles bandés, prêts à bondir dans la réalité. J'ai bravé la torpille, le canon, les mines, le feu, les gaz, les mitrailleuses, toute la machinerie anonyme, démoniaque, systématique, aveugle. Je vais braver l'homme, mon semblable, un singe. Œil pour œil, dent pour dent, à nous deux maintenant. À coup de poing, à coup de couteau, sans merci, je saute sur mon antagoniste, je lui porte un coup terrible. La tête est presque décollée. J'ai tué le Bosch. J'étais plus vif et plus rapide que lui, plus direct. J'ai frappé le premier. J'ai le sens de la réalité, moi, poète. J'ai agi, j'ai tué. Comme celui qui veut vivre.
Blaise Cendrars, extrait de « J'ai tué », 1918.
Dans l'extrait que nous venons d'entendre, Cendrars, qui décrit l'expérience extrêmement cruelle du soldat, se qualifie lui-même de poète. Ce n'était pas n'importe quel poète, comme on va s'en rendre compte en écoutant « Pâques à New York », qui est véritablement l'un des moments fondateurs de la poésie moderne et probablement l'une des plus grandes œuvres du XXe siècle. « Pâques à New York » que malheureusement j'ai dû couper, sans ça on y était pour 2 heures. Je regrette de l'avoir coupé et je recommande à tout le monde, évidemment, en tout cas à ceux qui ne le connaîtraient pas, de prendre le livre et de lire intégralement « Pâques à New York » après m'avoir entendu. Seigneur, c'est aujourd'hui le jour de votre nom. J'ai lu dans un vieux livre la geste de votre passion et votre angoisse et vos efforts et vos bonnes paroles qui pleurent dans le livre. Doucement monotone. Un moine d'un vieux temps me parle de votre mort. Il traçait votre histoire avec des lettres d'or dans un missel, posé sur ses genoux. Il travaillait pieusement en s'inspirant de vous. À l'abri de l'autel, assis dans sa robe blanche, il travaillait lentement du lundi au dimanche. Les heures s'arrêtaient au seuil de son retrait. Lui s'oubliait, penché sur votre portrait. À Vêpres, quand les cloches psalmodiaient dans la tour, le bon frère ne savait si c'était son amour ou si c'était le vôtre, Seigneur, ou votre père, qui battait à grands coups les portes du monastère. Je suis comme ce bon moine ce soir, je suis inquiet. Dans la chambre à côté, un être triste et muet attend derrière la porte, attend que je l'appelle. C'est vous, c'est Dieu, c'est moi, c'est l'Éternel. Je ne vous ai pas connu alors, ni maintenant. Je n'ai jamais prié quand j'étais un petit enfant. Ce soir pourtant, je pense à vous avec effroi. Mon âme est une veuve en deuil, au pied de votre croix. Mon âme est une veuve en noir. C'est votre mère, sans larmes et sans espoir, comme la peinte carrière. Je connais tous les Christs qui pendent dans les musées. Mais vous marchez, Seigneur, ce soir, à mes côtés. C'est à cette heure-ci, c'est vers la 9e heure, que votre tête, Seigneur, tomba sur votre cœur. Je suis assis au bord de l'océan et je me remémore un cantique allemand où il dit, avec des mots très doux, très simples et très purs, la beauté de votre face dans la torture. Dans une église à Sienne, dans un caveau, j'ai vu la même face sous un rideau. Et dans un ermitage à Bourrier-Vladislas, elle est bossuée d'or dans une châsse. De troubles cabochons sont à la place des yeux et des paysans baissent à genoux vos yeux. Sur le mouchoir de Véronique, elle est empreinte et c'est pour cela que Véronique est votre sainte. C'est la meilleure relique promenée par les champs. Elle guérit tous les malades, tous les méchants. Elle fait encore 1000 et 1000 autres miracles, mais je n'ai jamais assisté à ce spectacle. Peut-être que la foi me manque, Seigneur, et la bonté, pour voir ce rayonnement de votre beauté. Pourtant, Seigneur, j'ai fait un périlleux voyage pour contempler dans un béryl l'intaille de votre image. Faites, Seigneur, que mon visage appuyé dans mes mains il laisse tomber le masque d'angoisse qui m'étreint. Faites, Seigneur, que mes deux mains appuyées sur ma bouche n'y laissent pas l'écume d'un désespoir farouche. Je suis triste et malade, peut-être à cause de vous, peut-être à cause d'un autre, peut-être à cause de vous. Seigneur, la foule des pauvres pour qui vous fîtes le sacrifice est ici parquée, tassée comme du bétail dans les hospices. D'immenses bateaux noirs viennent des horizons, et les débarquent pêle-mêle sur les pontons. Il y a des Italiens, des Grecs, des Espagnols, des Russes, des Bulgares, des Persans, des Mongols. Ce sont des bêtes de cirque qui sautent les méridiens. On leur jette un morceau de viande noire comme à des chiens. C'est leur bonheur à eux que cette sale pitance, Seigneur, ayez pitié des peuples en souffrance. Seigneur, quand vous mourûtes, le rideau se fendit. Ce que l'on vit derrière, personne ne l'a dit. La rue est dans la nuit comme une déchirure pleine d'or et de sang, de feu et d'épluchures. Ce que vous aviez chassé du temple avec votre fouet flagelle les passants d'une poignée de méfaits. L'étoile qui disparut alors du tabernacle brûle sur les murs dans la lumière crue des spectacles. Seigneur, la banque illuminée est comme un coffre-fort où s'est coagulé le sang de votre mort. Les rues se font désertes et deviennent plus noires. Je chancelle comme un homme ivre sur les trottoirs. J'ai peur des grands pans d'ombre que les maisons projettent. J'ai peur, quelqu'un me suit. Je n'ose tourner la tête. Un pas, clopin, clopant, saute de plus en plus près. J'ai peur, j'ai le vertige et je m'arrête exprès. Un effroyable drôle m'a jeté un regard aigu, puis a passé, mauvais comme un poignard. Seigneur, rien n'a changé depuis que vous n'êtes plus roi. Le mal s'est fait une béquille de votre croix. Seigneur, l'aube a glissé froide comme un suaire et a mis tout à nu les gratte-ciels dans les airs. Déjà, un bruit immense retentit sur la ville, déjà les trains bondissent, grondent et défilent. Les métropolitains roulent et tonnent sous terre. Les ponts sont secoués par les chemins de fer. La cité tremble, des cris, du feu et des fumées, des sirènes à vapeur rauquent comme des huées. Une foule enfiévrée par les sueurs de l'or se bouscule et s'engouffre dans de longs corridors, trouble dans le fouillis empanaché des toits, le soleil, c'est votre face, souillée par les crachats. Seigneur, je rentre fatigué, seul et très morne. Seigneur, ma chambre est nue comme un tombeau. Seigneur, je suis tout seul et j'ai la fièvre. Seigneur, mon lit est froid comme un cercueil. Seigneur, je ferme les yeux et je claque des dents. Seigneur, je suis trop seul. Seigneur, j'ai froid. Seigneur, j'appelle. 100 000 toupies tournoient devant mes yeux, non. 100 000 femmes, non. 100 000 violoncelles. Je pense, Seigneur, à mes heures malheureuses. Je pense, Seigneur, à mes heures en allées. Je ne pense plus à vous. Je ne pense plus à vous.
Extrait de Pâques à New York. Quel est, amour, le nom de mon amour? On entre, on trouve un lavabo, une épingle à cheveux oubliée au coin ou sur le marbre de la cheminée, ou tombée dans une raie du parquet, derrière la commode. Mais son nom, amour. Quel est le nom de mon amour? Dans la glace.
Blaise Cendrars, Hôtel des étrangers, extrait des Poésies complètes. Je suis revenu au quartier comme au temps de ma jeunesse. Je crois que c'est peine perdue. Car rien en moi ne revit plus de mes rêves, de mes désespoirs, de ce que j'ai fait à 18 ans. On démolit des pâtés de maison, on a changé le nom des rues. Saint-Séverin est mis à nu. La place Maubert est plus grande et la rue Saint-Jacques s'élargit. Je trouve cela beaucoup plus beau, neuf et plus antique à la fois. C'est ainsi que, m'étant fait sauter la barbe et les cheveux tout courts, je porte un visage d'aujourd'hui et le crâne de mon grand-père. C'est pourquoi je ne regrette rien. Et j'appelle les démolisseurs. Foutez mon enfance par terre, ma famille et mes habitudes. Mettez une gare à la place ou laissez un terrain vague qui dégage mon origine. Je ne suis pas le fils de mon père et je n'aime que mon bisaïeul. Je me suis fait un nom nouveau, visible comme une affiche bleue et rouge, montée sur un échafaudage derrière quoi on édifie des nouveautés, des lendemains.
Blaise Cendrars, Hôtel Notre-Dame, extrait des Poésies complètes.
La croix n'était pas occupée dans la journée. Par contre, chaque nuit, un groupe de la section franche montait dans ce petit poste perdu que nous, les vieux, continuons à appeler la cave, la casbah ou le ratodrome des Bleus, en souvenir du bon vin que nous y avions bu, ou pour honorer la foire qui y avait été faite, ou en mémoire de l'initiation des Bleuets de la classe 15. Ces tendres zigs que Van Lees, l'instigateur de la nouba légendaire, avait su faire turbiner et exploiter jusqu'à la gauche, dans le but de les dessaler, de les affranchir, bref, de les initier au rite, de leur inculquer le rythme, la vie endiablée de la Légion. La grande nouba avait duré 15 jours. Telle est l'origine de ce petit poste perdu où je devais connaître, par une belle nuit du mois de juillet, la plus grande peur de ma vie. Mais avant d'en venir là, je voudrais dire encore deux mots sur Vanlès, qui devait subir fin septembre à l'attaque de la ferme Navarin en Champagne, où nos bleus devaient se distinguer, et la Légion, une fois de plus, être citée à l'ordre des armées. Vanlès devait subir la mort la plus effroyable qu'il m'ait été donné d'observer sur un champ de bataille. En effet, comme nous partions à l'assaut, il fut emporté par un obus et j'ai vu de mes yeux qui le suivaient en l'air, j'ai vu ce beau légionnaire être violé, fripé, sucé, j'ai vu son pantalon ensanglanté retomber vide sur le sol, alors que l'épouvantable cri de douleur que poussait cet homme assassiné en l'air par une goule invisible dans sa nuée jaune retentissait plus formidable que l'explosion même de l'obus. Et j'ai entendu ce cri qui durait encore, alors que le corps volatilisé depuis un bon moment n'existait déjà plus. À part ce pantalon vide, je ne retrouvais rien d'autre de Vanlès. Il n'y eut donc pas de mort à enterrer. Que ce petit ex-voto de l'homme foudroyé lui serve de raison funèbre.
Blaise Cendrars, extrait de L'homme foudroyé.
C'est la guerre, ça, ce calme, ce repos, cette paix entre les lignes, et cette canonnade continue et monotone qui descend du nord, et que l'on n'entend plus tellement elle fait partie du grand paysage nocturne dont elle est comme la respiration, une force cosmique, depuis les mois et les mois qu'elle roule et se déverse, avec la régularité, le bercement de l'océan. Le danger dans ma situation n'était pas de m'endormir, mais de laisser mon esprit vagabonder de la feuille d'herbe aux étoiles, de suivre des yeux les convolutions silencieuses de la buée opaque qui se nouait et se dénouait en l'air, de me réciter des vers, comme je le faisais, des vers de Rilke. « This house is das letzte Haus der Welt » et de me croire transporté par l'incantation de ce beau poème allemand dans les steppes infinies de la Russie que le paysage réel au milieu duquel je me trouvais seul en contemplation évoquait avec d'autant plus de précision qu'il était à l'abandon et semblait désert. This house is das letzte Haus der Welt. Que faisait Rilke, avec qui je m'étais battu à la veille de la guerre, pour une jeune fille française hébergée chez des amis et que le grand poète avait malmenée? Rilke, qui avait voulu exciter sur moi son chien-loup. Mais je n'avais pas eu peur du chien, et le maître ne s'est jamais vanté de la raclée que je lui ai administrée sur le terre-plein de la closerie des Lilas. Rilke, qu'était-il devenu alors que j'étais soldat? Les journaux disaient qu'il s'était réfugié en Suisse, comme si la place d'un poète n'est pas, parmi les hommes, ses frères, quand cela va mal et que tout croule, l'humanité, la civilisation et le reste. Rilke, déserteur? Alors, on explique que la poésie, la vraie, n'a pas de patrie. « This house is das letzte Haus der Welt ». Écrivait-il en allemand, Rilke, oui ou non? Et ce beau poème est-il en espéranto?
Blaise Cendrars, extrait de L'homme foudroyé. En route. Je n'ai pas de papier pour me torcher et je sors. Comme le dieu Tangaloa qui, en pêchant la ligne, tira le monde hors des eaux. La dernière lettre de mon troisième oncle, Papé Été, le 1er septembre 1887. Ma sœur, ma très chère sœur, je suis bouddhiste, membre d'une secte politique. Je suis ici pour faire des achats de dynamite. On en vend chez les épiciers, comme chez vous la chicorée, par petits paquets. Puis je retournerai à Bombay, faire sauter les Anglais. Ça chauffe. Je ne te reverrai jamais plus. Et il y avait encore quelque chose, la tristesse et le mal du pays.
Blaise Cendrars, histoire de mes sept oncles. Encore un de ces drames secrets entre un père et un fils. Moi, à 14 ans, je m'étais saisi d'un couteau de cuisine. C'est pourquoi je me suis mis à bourlinguer. C'était pourtant le meilleur père du monde. Je ne devais le revoir qu'après mon amputation, quand on m'a coupé la main droite. C'était la guerre. Mon père avait dû remuer ciel et terre pour apprendre dans quel hôpital militaire j'étais soigné. Assis au chevet de mon lit, il me regardait sans rien dire. Une grosse larme se frayait un chemin parmi ses rides. Une seule.
Blaise Cendrars, extrait de L'homme foudroyé. Everybody's got their shit. Everybody's on their own. So that we bring
What we should probably say. Let's put it off for a few more days. And anyway, I'll pretend not to hear until you whisper.
Admiration littéraire de François Sureau.
Pourriez-vous tout quitter, famille, situation, habitude, pour recommencer votre vie?
J'ai fait plusieurs fois déjà. J'essaie toujours à recommencer.
Et maintenant, nous allons partir, Victoire et moi, en accomplissant le vœu final de Blaise Cendrars. Le poème s'appelle « Tu es plus belle que le ciel et la mer ».
Quand tu aimes, il faut partir. Quitte ta femme, quitte ton enfant, quitte ton ami, quitte ton ami, quitte ton amante, quitte ton amant. Quand tu aimes, il faut partir. Le monde est plein de nègres et de négresses, des femmes, des hommes, des femmes. Regarde les beaux magasins, ce fiacre, cet homme, cette femme, ce fiacre, et toutes les belles marchandises. Il y a l'air, il y a le vent, les montagnes, l'eau, le ciel, la terre, les enfants, les animaux, les plantes et le charbon de terre. Apprends à vendre, à acheter, à revendre. Donne, prends. Quand tu aimes, il faut savoir chanter, courir, manger, boire, siffler et apprendre à travailler. Quand tu aimes, il faut partir. Ne larmoie pas en souriant, ne te niche pas entre deux seins. Respire, marche, pars, va-t'en. Je prends mon bain et je regarde. Je vois la bouche que je connais, la main, la jambe, l'œil. Je prends mon bain et je regarde. Le monde entier est toujours là. La vie, pleine de choses surprenantes. Je sors de la pharmacie. Je descends juste de la bascule. Je pèse mes 80 kilos. Je t'aime.
Et c'est donc le moment de nous dire au revoir après toutes ces lectures et de vous dire combien Victoire et moi avons été heureux dans le silence du studio, en ne sachant pas qui nous écoutait, de partager avec vous ces œuvres et ces émotions de la littérature qui rendent la vie simplement supportable. Merci à vous.
Cette émission a été préparée par Perrine Malinge. C'est Ilaï Ravu qui a effectué la prise de son. Pauline Laverdure l'a mixée. Thierry Dupin en est le programmateur. Et elle a été réalisée par Stéphane Ronxin.
Nous ne sommes pas Spirit, mais il faut ajouter les ombres de tous ceux que nous avons lus et dont nous avons souvent pensé qu'ils nous accompagnaient au milieu de cette aventure.